Marcher pour un petit enfant, c'est un exploit, c'est une étape importante. Mais pourquoi continuer à marcher quand on a un permis de conduire et une voiture?
Faire une marche et faire le chemin de Compostelle, pour moi, c'est pas pareil. Donc découvrir la marche sur le chemin de Compostelle, là, je me suis rendu compte que ça nous faisait découvrir vraiment, vraiment beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes et de se rendre compte qu'on est capable de faire des milliers de kilomètres à pied. Déjà là, on porte un autre regard sur nous.
Alors nous sommes avec Madi du Camino, parce que c'est un habitué du chemin de Compostelle. Madi, nous l'avions déjà rencontré il y a quelques années à Saintes, quand il était revenu de sa grande marche, on va dire, de Jérusalem à Compostelle. Rappelez-nous un petit peu en quelle année c'était et dans quelles conditions.
Alors, Jérusalem-Compostelle, ça a commencé au mois d'octobre 2003. Là, je parle vraiment du voyage, hein, parce que les contacts, etc., ça avait commencé en 2001. On est parti en 2003 et on est arrivé à Compostelle le jour de la Saint-Amour, le 9 août 2005. Donc, le projet à la base, c'était un chrétien, un juif, un musulman, pour montrer symboliquement qu'on peut vivre ensemble. Et c'était par la suite, les gens se sont un peu emparés du projet et on parlait d'une marche pour la paix. À la base, nous, on n'avait pas appelé ça comme ça, mais finalement, on s'y retrouvait bien. Et l'expérience, c'était donc, on s'est retrouvé trois hommes, c'était pas du tout un projet religieux, c'était vraiment symbolique de dire qu'on peut vivre ensemble. Et on s'est retrouvé trois hommes qui ne se connaissaient pas avant, Richard qui avait monté le projet, avec Johan et moi-même. Johan qui habitait donc à Jérusalem à l'époque. Et on s'est retrouvé avec trois générations différentes, avec trois parcours de vie complètement différents. Et 22 mois, parce que généralement les gens font moins que ça pour venir de Jérusalem. Mais le projet, il était aussi de rencontrer des élèves dans les différents pays, rencontrer des élèves, parler de notre projet, échanger un maximum avec eux. Et c'est ce qu'on a fait. Alors autant dans des pays comme en Moyen-Orient ou en Turquie, c'est très rapide. On peut rencontrer une classe en des fois en 10 minutes. Et autant, bah, évidemment, quand on est en Europe, il faut passer par la hiérarchie, l'académie, etc. Et puis là, ça peut prendre 2 semaines. Donc ça nous a obligés parfois à rester plus longtemps que prévu. Il y a des villes où on a stagné 2 semaines, d'autres on a stagné 1 mois, et ce qui explique un petit peu les 22 mois. Et puis il faut dire qu'on n'a pas fait au plus court, on n'a pas coupé au niveau de la Grèce vers l'Italie, on est passé par les Balkans parce que ça nous paraissait important et intéressant de passer par cette région qui avait vécu quand même pas mal de choses entre les différentes communautés religieuses, les déchirements qu'il y a eu. Et en particulier, on voulait passer à Sarajevo, ce qu'on a fait et on ne l'a pas du tout regretté.
Et la Mecque, vous n'avez pas pu passer à la Mecque?
À la base, Richard avait pensé qu'on pourrait démarrer de là. Mais la Mecque, c'est assez particulier dans la mesure où il faut déjà être musulman. Et en plus, je pense que jamais ils auraient laissé rentrer un juif sur le territoire saoudien. C'est vraiment strict à ce niveau-là. Et en Arabie Saoudite, c'est déjà pas facile. Et entrer dans la ville sainte, Médine, je suis même pas sûr qu'il y en a un de nous trois qui aurait pu le faire.
Et vous avez fait un autre détour en passant par Rome.
Oui. Rome, pareil, ça nous paraissait symboliquement important. Et puis surtout à l'époque, Jean-Paul II était encore vivant. Il représentait, que ce soit l'œcuménisme ou le rapport qu'il avait avec les autres religions, il y avait quelque chose qui était fort, qui nous parlait. Et on s'était dit, tiens, on va essayer de le rencontrer. On a eu des contacts avec des proches, notamment une Italienne qui habitait près de Rome, qui avait son frère, qui était quand même quelqu'un d'assez proche de Jean-Paul II. Malheureusement, à l'époque, il était déjà bien malade. Et on n'a pas pu le voir et il est décédé quelques jours après qu'on ait quitté Rome. Donc voilà, on est resté avec le souvenir, ce qu'il nous a laissé.
Et donc vous êtes allé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était un symbole également.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Richard, avant de faire ce projet, il avait déjà fait une marche de Compostelle. Moi, je l'ai rencontré en revenant de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'on s'est croisé la première fois à 4 h du matin, dans une gare routière. Moi, je revenais en bus de Compostelle. Et donc tous les deux, on avait été marqués par ce chemin. Et il y avait la symbolique aussi du. Quand on fait Compostelle, quand on va jusqu'à Finistère, il y a la symbolique du soleil qui se couche avec à l'est la naissance, à l'ouest la mort, et puis tout ce renouveau qui est rattaché au chemin de Compostelle. Donc comme tous ceux, je pense, qui ont fait le chemin, on a tous envie d'y revenir. Et là, c'était vraiment un parcours hautement symbolique.
Et depuis donc cette grande expérience de Jérusalem à Compostelle, vous avez refait le chemin de Compostelle plus classique.
Alors je l'ai refait, il faut que je compte. La première fois c'était en 2001, ensuite il y a eu 2003-2005 pour le grand projet. J'y suis retourné en 2006, d'abord pour accompagner une amie qui avait peur de le faire toute seule. Je suis retourné en fin 2006 pour accompagner un jeune dans le cadre de l'association Seuil pour la réinsertion des jeunes adolescents. Et je suis retourné en 2010 pour, là c'était pour accompagner un ami québécois. Et avec ma compagne, on avait fait la voie d'Arles en 2008. Et là, on repart de nouveau avec ma compagne pour faire la partie espagnole au mois d'août ou septembre.
Alors, la compagne, justement, Françoise est là. Et il y a des bons souvenirs sur le chemin, puisque c'est sur le chemin que vous êtes rencontrés tous les deux.
Oui, effectivement, on s'est rencontrés tous les deux sur le chemin. Le jour où moi j'ai décidé de partir en Espagne, je ne voulais pas monter à Saint-Jean-Pied-de-Port, me couper les pattes avant de faire les 800 km. Donc j'ai contacté Express Bourrico et je me suis dit, si elle m'appelle, si ça répond, je monte avec elle. Et si ça ne répond pas, c'est que je devrais monter. Et puis finalement, elle était là. Donc la personne m'a monté jusqu'à Roncevaux. Et à Roncevaux, en montant, elle m'explique que la semaine d'avant, elle avait monté un jeune homme qui accompagnait un jeune adolescent et que ce jeune homme avait fait la marche de Jérusalem jusqu'à Compostelle, accompagné d'un chrétien et d'un juif.
Ça vous a donné des frissons?
Non, quand elle m'a parlé de ce projet, je me suis dit, oh ben, pour que ça marche tous les trois, il ne devait pas vraiment être intégriste et il y avait de la tolérance forcément.
Et donc, vous l'avez retrouvé sur le chemin et vous avez fait connaissance?
Oui, 700 km plus loin, à Saria.
Et quelques années plus tard, vous êtes ensemble sur La Rochelle.
Exactement. J'ai été le chercher pour qu'il vienne sur La Rochelle.
Ah, c'est vrai, quand on est sur la route comme ça, sur le chemin, de quoi parle-t-on? Quand vous étiez donc entre trois religions, vous avez parlé religion un peu ou pas du tout?
Oh si, quand même. De nous trois, celui qui était, on peut dire, pratiquant, c'était Johan, le juif. À un moment donné, même, il faisait régulièrement ses prières, etc. Et justement, ce qui tombait bien, c'est que ni Richard ni moi ne connaissions bien la communauté juive. Du coup, on en a profité pour poser plein de questions. C'est surtout à lui, en fait, qu'on a posé les questions. Parce que comme le temps qu'on a passé, on a été un mois à Jérusalem, on a rencontré Johan 5 jours avant de quitter la ville. Donc tout ce temps passé sur place, on a vu plein de choses, mais on n'a pas compris. On était au mur des Lamentations, on a rencontré des rabbins, etc. Mais on ne savait pas. On a eu des explications par un monsieur, mais c'était ésotérique, on n'a rien compris. Ça a duré des heures et des heures, les explications, mais c'était tellement fort en symbolique qu'on est ressorti de là, on s'est dit « waouh ». Il faudra revoir tout ça parce que c'est trop compliqué. Et donc là, avec Johan, on avait le temps de poser les choses et de bien nous expliquer à quoi ça sert les objets, certaines parures qui se mettent, etc., la signification des fêtes. Et donc de ce côté-là, on a vraiment bien échangé. Après, pour l'islam et le christianisme, là, c'était surtout avec les gens qu'on rencontrait. Parce qu'on a rencontré des imams, beaucoup de musulmans, forcément, en Palestine, en Jordanie, Liban, Syrie, en Turquie. Et christianisme, pareil, puisqu'on était hébergé par des religieux, parfois très vite, hein, très vite, déjà à Jérusalem, et puis même en Turquie, premier hébergement en Turquie, c'était chez des chrétiens, d'ailleurs à Antioche. Et donc tout ça, on avait des droits à des enseignements quasiment, je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines. Il y avait toujours quelqu'un pour nous apprendre quelque chose qu'on savait pas, sur la Bible, sur le Coran, sur la Torah, c'était très riche.
Alors, on parle de quoi en plus alors, sur le chemin? On parle de nourriture, on parle de ses pieds?
On passe beaucoup de temps à ne pas parler, c'est vrai. Ça nous est arrivé de nous prendre la tête, forcément. Mais comme on était tout le temps, toute la journée ensemble, les gens, quand on arrivait aux hébergements, généralement, ils voulaient faire bien. Ils se disaient, bon, on va vous mettre ensemble dans la même chambre. Des fois, c'était dans le même lit. Donc, à un moment donné, aussi, la journée, on se disait, bon, je vais peut-être en profiter, prendre un peu de temps pour moi, et puis me ressourcer, etc. Et quand on discutait, généralement, c'était un petit peu de l'hébergement, mais on parlait surtout des rencontres qu'on avait faites. C'était parce que chaque pays avait sa situation politique, plus ou moins tendue. Et donc, après, on parlait des rencontres qu'on avait faites, comment vivaient les gens, surtout, parce qu'on a rencontré vraiment des gens qui vivaient dans... C'était un autre monde, c'était très pauvre, ça rien à voir avec les repères qu'on avait. Donc là, il y avait de quoi alimenter nos conversations pendant des heures.
Et sur le chemin espagnol de Compostelle, les gens que l'on rencontre sont moins divers?
Là, sur le chemin, c'est... Comme on ne peut pas aller partout dans le monde, là, c'est le monde qui vient à nous. Il y a des gens de partout, de tous les pays. aussi bien d'Asie que d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, enfin partout d'Europe, partout. Et moi j'adore parce que là on a des échanges surtout. Il y a des pays où je pense que j'aurais pas le temps, où j'y pense même pas d'y aller. Mais voilà, je pense en particulier à des pays comme la Corée. Le fait d'avoir rencontré des Coréens, d'avoir pu leur poser des questions sur leur vie, sur des choses toutes simples, hein, sur une façon de préparer un repas, etc. Et voilà, moi ça me plaisait de voir un Coréen habillé un peu comme à l'époque des samouraïs. Voilà, on est dans une autre dimension. Et de ça, des gens des pays de l'Est, c'est pas seulement enrichissant. Et là, on est tous connectés, on est dans l'humanité. Et, voilà, le chemin de Compostelle, pour moi, en particulier la partie espagnole, on est vraiment dans l'universalité. Et on dépasse tout, on est au-dessus de tout là. On est un.
Et maintenant, donc, vous recommencez le chemin de Compostelle. La motivation, on a vu qu'il y avait des accompagnements, mais il y a également une motivation personnelle, certainement.
Oui, toujours. Enfin, je pense que la vie, c'est spirituellement parlant, c'est un cheminement. Et il y a différentes façons d'évoluer, d'avancer dans ses recherches. Mais le chemin de Compostelle, pour moi, ça reste le meilleur moyen que j'ai trouvé. Parce que le fait de marcher, le corps s'y retrouve physiquement, mentalement, il y a quelque chose qui se passe. Du coup, le rapport esprit-corps, il y a une espèce d'osmose, là, il y a une autre communication qui se fait. Après, là, ma soif de rencontrer des gens, de passer des moments avec des gens, de découvrir d'autres cultures, etc. Sur le chemin, je suis satisfait aussi parce qu'il y a tellement de rencontres qui se font et on est beaucoup dans la nature. Très vite, on se rend compte que les odeurs, les bruits, tout ça, on les perçoit mieux. On est, de temps en temps, on passe dans des grandes villes, mais là, on est de nouveau en contact. Tous les sens se redéveloppent. On se rapproche de ce qu'est l'être humain. Les téléphones, etc., on les oublie. Internet, en général, on l'oublie. Moi, je pense que c'est vraiment, ça fait du bien pour notre âme. On avance. Comme on n'est pas sur le chemin de Compostelle toute l'année, il faut revenir régulièrement pour se reconnecter.
Madi, merci beaucoup. Si vous voulez bien, nous reviendrons avec vous pour parler encore du chemin, mais de l'accompagnement des jeunes. Merci, Madi.
De rien et avec plaisir.
Et que fait Madi quand il ne marche pas vers Compostelle? Il répare et installe des ordinateurs chez les particuliers. Alors, si vous avez un problème d'informatique, tapez « dépannage informatique à domicile, La Rochelle » sur Google. Et il vous mènera sur le site de Madi, creative-tic.com.